Il répondait à votre question.
Oui, je voudrais dire, vous savez, il y a deux ans, et vous voyez encore les mêmes points, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a organisé une journée politique avec les ministres qui sont venus pour traiter du problème des Roms. C'était d'ailleurs le moment où il y avait une très grande polémique, notamment en France,
à
cause du discours de Grenoble, du président Sarkozy. Et moi, j'ai été invité à cette journée, j'ai beaucoup appris, et j'ai parlé avec un certain nombre de personnes. Et dans un pays qu'on pourrait appeler la Macédoine, mais qu'on appelle pour l'instant la Girole, l'ex-république du Yougoslave de Macédoine, j'ai appris qu'il y a un ministre qui est rome, qui est chargé du problème de Rome auprès de, dans le sein du gouvernement de ce pays, et le président de la République, M. Ivanov, que j'ai rencontré quand je suis allé vers ses pieds, m'a confirmé que pour son gouvernement et pour lui comme président de la République, il fallait lutter contre toutes les discriminations, y compris la discrimination rome. Alors, je ne sais pas si sur le terrain, dans ce pays-là, les choses ont lieu moins mal que mieux, mais je sais qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a jamais eu de requête contre la Chironne, alors qu'on a beaucoup contre la Hongrie, la Slovaquie, la Tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, bien entendu. Et ça, peut-être, je peux poser.
Non, ce n'est pas le paradis. La Macédoine n'est pas le paradis des Roms, c'est vrai qu'il y a M. Mustapha qui est un ministre sans portfolio, qui est maire de la ville ou d'une petite ville à côté de Skopje où 90% de la population est rome, et il était le maire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Roms éduqués qui travaillent dans le ministère. D'ailleurs, notre groupe d'experts gouvernemental, la Macédoine est représentée par une femme rome. Il me semble qu'il y avait une affaire contre la Macédoine concernant une violence policière. Je ne suis maintenant, mais bref, ce n'est pas le paradis non plus. Il y a de forts préjugés à l'égard des Roms, de la population majoritaire. Et là, il y a aussi le problème de la minorité albanaise. C'est les Roms, ils sont quand même mieux traités dans tous les contextes politiques. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Roms éduqués, donc non, on a des Roms à des positions clés.
Je voulais juste répondre à monsieur par rapport aux situations des Roms. Je peux vous dire que Calteleuse, à l'heure actuelle, il y a 3 Roms sur un terrain. Et qu'on s'est battu pour avoir des blocs sanitaires, parce que c'était insupportable de voir l'hygiène minimale ne pas respectée. Donc, il y a 2 ans, a fait une coordination pour des actions de familles roms, hein, donc, qui devait donc, qui ont été suivies des faits, puisque grâce, là je soutiens la question à vous, parce qu'en fait, on a eu énormément de grandes écoutes par rapport aux familles qui étaient sur les terrains, donc au Saint-Exupéry. Et également à l'Ixophène. Et donc les choses ne sont vraiment pas aussi simples que ça. Je veux dire, c'est pas une question de. Je pense qu'il y a qu'à. Il faut que. Il y a un gros problème de logement. Il y a ces mesures transitoires qui empêchent aussi les Roms de pouvoir travailler. Donc ça, c'est très compliqué. Et je crois que c'est des mesures politiques qui s'imposent et qui devraient nous permettre à ces familles déjà de travailler. Pouvoir rentrer dans le droit. Voilà, parce que ce sont ces familles migrantes n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un logement et un travail. Toutes les familles qu'on a suivies, c'était simple. Alors, absolument pas envie d'habiter en caravane. Et voilà, donc je veux dire, il faut être pragmatique. Et c'est pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et il y a énormément de travail aussi en France. Et la France a été condamnée par. J'ai une collègue qui est dans la salle, grâce à mouvement la Pédé Garmonde, Calteleuse, donc par la France, a été condamnée par rapport à l'action, oui, puisque Calteleuse, Metz et Calteleuse n'avaient pas donc.
Oui, oui, oui.
n'avait pas respecté donc les conditions minimales d'hébergement et de logement pour les familles.
Oui, peut-être pour la clarté, il y a donc plusieurs instruments juridiques au Conseil de l'Europe. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui est traitée par la Cour, mais il y a aussi la Charte européenne des visées qui peut faire l'objet de recours et où les pays peuvent aussi faire l'objet, à travers une réclamation collective, où les pays peuvent aussi être condamnés, mais c'est une condamnation qui est plus légère que celle de la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est plutôt une recommandation. Il devrait être adressé, tandis que les arrêtés de la Cour doivent être exécutés. Donc il y a un degré entre les deux. Par contre, c'est tout de même politiquement très important et je pense que le gouvernement français à l'heure actuelle aura tout intérêt à suivre aussi les recommandations qui sont par le Comité européen des droits sociaux. Comité que nous inviterons d'ailleurs lors d'une prochaine manifestation organisée par la MESA pour discuter du droit au logement, justement. Donc le secrétaire du comité, Régis Fria, nous a donné son accord pour animer une soirée de ce type un peu plus tard dans l'année. Il y avait un jeune homme là, près de Richard, voilà. Pour rapprocher le...
Est-ce que les Roms ont un avenir en France?
Les Roms migrants? Les Roms migrants.
Oui, parce que d'abord, il faut quand même comprendre que beaucoup parmi les personnes dont nous discutons ici, et notamment ceux qui sont au niveau de la Calvados, ont en général la nationalité française. Donc, forcément, leur avenir est en France, il n'est pas ailleurs. Par contre, il est vrai qu'il y a cette volonté de faire revenir vers leur pays d'origine des Roms qui viennent de Bulgarie, de Roumanie notamment, mais le nombre restera quand même plus limité. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu une réflexion.
Il faut demander à Michael et aux dames qui sont là s'ils voient un avenir.
Voilà, que, comment voyez-vous votre avenir dans notre pays?
Bien, en fait.
Excusez-moi, mais on va y venir.
Comment tu vois un avenir en France? Pourquoi?
Parce que j'ai pas envie de venir mon fils comme moi. Pas de travail, pas tout le monde. Pour ça. Parce que la Roumanie, c'est difficile pour scolariser un enfant. Comme j'avais de l'argent, j'avais scolarisé mon fils. C'est pas de l'argent, pas de scolarisé. Pour lui, c'est pas du tout de l'argent. Pour ça, c'est pour ça.
Alors c'est la différence. En Roumanie, ils n'ont pas accès à l'éducation, ici ils ont accès à l'éducation.
Quand mon fils à l'école, toujours maintenant c'est à 4e, en collège, à Jachingel. Et c'est un bon collège, il n'y a pas de discrimination pour lui. J'espère que pour l'autre enfant, c'est la même chose.
Voilà une perspective encourageante, donc on espère que d'autres pourront suivre le même chemin. Il y a peut-être d'autres réactions dans la salle. N'hésitez pas à prendre la parole. Mais il y a quelqu'un devant qui avait demandé la parole.
Oui, bonsoir. Puisqu'il a été plusieurs fois question du rapprochement enfin, des Juifs et des Roms, de leur sort commun, je voudrais signaler quand même qu'à Strasbourg, depuis plusieurs années, 3 ans au moins, il y a une initiative commune, puisque on la doit en grande partie à Georges Yoram Federman et à l'Union juive libérale. Hein, vous savez qu'il y a chaque année ce qu'on appelle le Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour où on commémore les 6 millions de morts de la Shoah. Et ça se passe place Broglie sous une forme qui consiste à lire les noms de tous les déportés, assassinés à Auschwitz et dans les autres camps. Au début, c'était uniquement les Juifs. Je parle ici des noms de ceux d'Alsace, hein, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Voilà. Et au début, c'était les noms des Juifs, et il y a quelques années, on a joint effectivement à la lecture des noms des Roms. Ça, c'était une première chose. Voilà. Moi, je voudrais. Je trouve que le titre de cette table ronde est particulièrement bien choisi, et je voudrais l'illustrer. Donc, Rome et Zigane, principes européens et réalité locale. Moi, je suis membre aussi, comme le camarade qui a parlé tout à l'heure, du collectif d'associations Lazio Rome. Et je suis allé personnellement avec deux ou trois autres personnes et un appareil photo, une caméra, etc. Sur deux des campements roms, où il y a des Roumains principalement, qui sont maintenant menacés d'un jour à l'autre d'être évacués, puisque à la demande de la ville de Strasbourg, le tribunal s'est enfin prononcé, puisque ça traînait depuis cet été. Et si la ville demande le concours des forces de l'ordre, ces gens-là vont être évacués des campements qu'ils occupent. Alors moi, je voudrais dire ce que j'ai vu et qui m'a profondément scandalisé. Parce que j'ai déjà été dans des pays du tiers-monde, j'ai déjà vu de la misère, mais je dois dire que j'ai rarement vu une telle misère, en particulier dans les deux camps, bien sûr, mais encore pire dans le second que j'ai vu. Donc j'ai été au camp qu'on appelle Saint-Gall, parce qu'il est à côté du cimetière Saint-Gall, à Königshofen, près de la route des Romains. C'est d'ailleurs le plus grand des camps, des quatre camps. Et puis ensuite, j'ai été au campement Vaudely, donc au bout de la rue Vaudely. Alors celui-là, sa situation est absolument terrifiante. Bon, il y a moins de tentes, mais ce campement se trouve juste en dessous de la bordure en métal de l'autoroute. Les premières tentes sont à 3-4 mètres de l'autoroute, donc vous imaginez le bruit infernal. Et puis ça s'étale sur une espèce de terrasse et en bas jusqu'à un ruisseau là qui coule le long du glacis où il y a les anciennes fortifications de la ville. Ces gens-là, dans les deux d'ailleurs, mais encore pire au Vaudely, vivent littéralement dans un dépôt d'ordures, il faut le dire. Alors là, déjà, je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens comme ça vivre dans de telles conditions. Le camarade tout à l'heure l'a dit, ils n'ont pas de prise d'eau, ils n'ont pas, et pourtant ils lavent leur linge et ils le font sécher sous des fils. J'ai fait des photos, vous pouvez les voir sur mon blog, lafeuillechou.fr. Donc, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de WC, ils n'ont pas évidemment d'électricité. Voilà. Et comment est-ce qu'ils vivent? Alors, il y avait un interprète du roumain avec nous, et donc on a pu avoir quelques échos directs de personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont fait entrer dans les baraquements, ou les tentes, ou parfois les caravanes qui leur servent de logement, et où on a remarqué d'ailleurs que, entre l'extérieur et l'intérieur, c'est assez frappant, il y a une espèce de, comment dire, il y a un soin pris pour l'intérieur des baraquements. On sent que voilà, ces personnes décorent le lit, ce qui tient lieu salle à manger, mettent des tentures, et on sent que voilà, il y a une culture qui est là et qui même dans ces conditions pires s'exprime. Hein, il faut imaginer ces baraquements avec des trucs à claire-voie, en bois, des chauffages bricolés dans des vieux chauffe-eau, des choses comme ça, bon, de la boue partout. Bon, et puis, voilà, de quoi vivent-ils? On leur a posé la question. On a d'abord demandé pourquoi à l'une des femmes qui est interviewée, et vous pouvez voir son interview, on lui a demandé pourquoi ils venaient en France plutôt que dans les autres pays européens, Belgique, Allemagne ou autres. Et alors là, la réponse a été très claire. C'est parce qu'en France, les enfants peuvent aller à l'école. Alors là, je trouve que les élus, les politiques, enfin tous les gens devraient écouter cette réponse. Et je trouve que la France devrait se trouver honorée par ce fait que les Roms choisissent notre pays, parce qu'effectivement la scolarité est obligatoire, et les Roms, semble-t-il, les enfants Roms, sont moins rejetés probablement que dans les autres pays. Et on devrait être honoré de ça, de cette déclaration, et on devrait les traiter de mieux qu'ils ne sont traités actuellement. De quoi est-ce qu'ils vivent? Comme ils disent, ils travaillent. Quand j'ai voulu y aller, on m'a dit qu'il ne faut pas y aller le matin, parce que le matin, ils sont au travail. Donc, vers 15h, c'est bon, ils reviennent du travail. Et là, on peut les rencontrer et discuter avec eux. Alors, le travail, soyons clairs. Un, la manche, la mendicité. Deux, ramasser des choses, du métal, des objets, etc. 3, les poubelles. Ils nous l'ont dit, hein. C'est comme ça. Voilà. Bien. Alors, les enfants, alors il y avait des tout petits enfants, beaucoup de bébés, des femmes enceintes aussi qu'on a rencontrées, des petits enfants. Alors, je me suis posé une question très simple. Il y a une protection maternelle et infantile. Ça dépend du conseil général, cette fois-ci, pas de la ville. Et je me demande, là, il y a des enfants qui sont, comment dire, peut-être pas en danger, parce que les parents s'occupent d'eux, mais enfin, ils sont dans des situations qui ne sont pas normales pour des petits-enfants. Bon, à l'heure où j'y étais avec des amis, les plus grands étaient à l'école, effectivement. Je ne les ai pas vus. Hein. Mais comme j'habite le quartier Königshofen, un peu plus loin, je les vois rentrer régulièrement de l'école. Ils sont comme des enfants normaux, contents d'aller à l'école. Et quand on voit dans quelles conditions ils vivent, avec le froid, avec les rats, avec les difficultés quotidiennes, le fait qu'ils ne mangent pas, enfin, des difficultés pour s'habiller, on se dit, mais c'est extraordinaire qu'ils aillent à l'école. Hein, et ils y vont. Et souvent, ils parlent français assez rapidement, après quelques mois. Alors voilà, moi, je suis scandalisé, parce que quand je vois que les collectivités territoriales, le conseil général, le conseil régional, la CUS, ont trouvé 1 million d'euros, l'argent du contribuable, pour soutenir un rallye automobile qui, de toute façon, n'a pas besoin de cet argent parce que c'est financé par les grosses entreprises de l'automobile et qu'on ne trouve pas moyen. Alors là, je parle des choses prioritaires, urgentes, tout de suite, là, demain. C'est-à-dire qu'on leur mette de l'eau, hein, qu'on leur mette des WC. Ça se loue partout, des WC. Hein, c'est pas difficile. Qu'on leur mette du courant électrique. Alors, bien sûr, on me dit, quand j'ai parlé à des élus, on me dit, oui, mais tu comprends, on ne veut pas que cette situation se pérennise. Bien sûr, personne ne le veut. Mais en attendant qu'on trouve autre chose, qu'on leur mette au moins le minimum pour vivre de manière non infra-humaine, parce que c'est vraiment infra-humain, c'est inhumain. Comment ils vivent actuellement, moi, je vous engage à y aller. Vous serez absolument, c'est absolument renversant de voir une chose pareille dans la capitale de l'Europe, la capitale des droits de l'homme. Hein, où ils sont les droits de l'homme quand on voit des gens vivre comme ça? Alors par ailleurs, je terminerai là-dessus. On a discuté avec l'association Latchorum et le collectif d'associations qui s'est adjoint à Latchorum et on a des propositions à faire, hein, avec les Roms d'ailleurs, hein, parce que ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais plus par qui, mais une chose très importante, c'est que effectivement, ces gens-là, ce n'est pas des sauvages, ils viennent de quelque part, ils avaient des métiers dans leur pays qu'ils pouvaient difficilement faire peut-être, enfin, ils ont des capacités, ils ont des compétences. Donc moi, je suis contre, comme l'association, le collectif d'associations, on est opposé à ce qu'on leur apporte comme ça, n'est-ce pas, la civilisation, entre guillemets, comme si c'était des gens qui tombaient de la lune. Non, il faut absolument faire des choses avec eux. Et ça a été dit juste avant, bon, si on doit, par exemple, trouver un terrain, ou plusieurs, pour ne pas les mettre tous ensemble, ça fait des concentrations pas très humaines, mais si on doit leur trouver un terrain viable, eh bien, qu'on leur propose à eux de participer à la compte. D'abord, qu'on leur demande dans quoi voulez-vous vivre? Des caravanes, des baraquements, des ceci, des cela, des cabanes. Et à ce moment-là, on leur propose de faire ça, de faire ça avec eux. Hein. Pas qu'on leur apporte les choses, n'est-ce pas, comme à l'époque du colonialisme en Algérie ou en Indochine. Non, qu'on fasse les choses avec eux. Parce que ces gens ont des compétences, ils ont des savoirs, et nous, on a aussi des choses à apprendre d'eux. Contrairement à ce qu'on croit toujours quand on fait des trucs humanitaires. Voilà. Alors, moi je crois. Et puis après, on a d'autres propositions. Parce qu'il y a la question du logement, il y a la question du travail. Alors, moi j'ai compris une chose, c'est que là, on a ouvert de 151 à 291 la liste des métiers autorisés pour les Roumains et les Bulgares, puisque ce n'est pas seulement pour les Roms, c'est les Roumains et les Bulgares, parce que ce n'est pas des citoyens européens comme les autres, je crois, jusqu'en 2014. Bon, c'est très bien qu'on ait ouvert ça, sauf que ils m'ont expliqué, ouais, mais quand on veut du travail, on est dit pas de logement, pas de travail. Et il faut encore que la préfecture fasse le point pour remarquer qu'aucun Français de souche, n'est-ce pas, prenne ce travail-là, pour qu'ensuite seulement on le propose à des Roms. Donc vous imaginez les mois et les mois que ça prend cette affaire-là, et en attendant, bon ben voilà, c'est la mendicité, tout simplement. Donc moi je demande clairement, ici à la ville, à Marie-Dominique Dreyfus, à mon ami Mathieu Kahn, hein, qui nous répondent des choses précises et qu'ils se dépêchent, quoi. Ils se dépêchent, non pas de faire évacuer les Roms, mais de faire des choses avec eux pour qu'enfin ils vivent de façon humaine.
Merci de cette intervention. fois, on voit là qu'il y a bien un problème de la dignité des êtres humains qui est posé d'ailleurs pour les sédentaires du polygone, mais qui est peut-être posé d'une manière encore plus cruciale pour ceux qui vivent dans ces camps improvisés. Alors, bon, on a parlé tout à l'heure des responsabilités politiques, notamment au niveau national, avec différents discours qui sont tenus sur les Roms, etc., et qui attisent la haine raciale à l'égard de nos concitoyens. Là, le problème qui est posé là, c'est un problème qui est plus posé sur le plan local. Donc je ne sais pas si c'est le moment où Marie-Dominique Dressé voudrait réagir. Je ne sais pas si Mathieu Kahn veut intervenir à ce stade. Bon, Marie-Dominique.
Alors, il y avait une petite précision, Mathieu et moi-même,